Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, pour continuer à télétravailler quelques jours par semaine, mais pas à n'importe quelle condition. À la une ce matin, les enseignements d'une enquête inédite menée auprès de 15 000 salariés par la CGT. Président arrêté, frontières fermées, les militaires tentent de prendre le pouvoir en Guinée. La France condamne ce matin, le récit des dernières heures dans ce journal. Au sommaire aussi, le trafic illégal d'espèces sauvages au menu du Congrès mondial pour la nature à Marseille et le boom des dons entre particuliers sur Internet. Une application française se frotte les mains.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui le procureur de la République qui dirige le parquet national antiterroriste, Jean-François Ricard. Les salariés, Alexis, veulent bien continuer à télétravailler un peu après la pandémie, mais uniquement si c'est très encadré.
Voilà la leçon de 18 mois de crise sanitaire. C'est ce qu'on retient de la grande enquête menée par la CGT auprès de 15 000 salariés et cadres du public comme du privé. Étude élaborée avec des experts du ministère du Travail. Plus de 9 personnes interrogées sur 10 souhaitent continuer à télétravailler, en général 1 à 2 jours par semaine, parce qu'ils y gagnent en temps de trajet ou en concentration. En revanche, tous dénoncent les très mauvaises conditions du travail à la maison, Manuel Ruffez.
Déjà fragilisé par un épisode de surmenage, le télétravail se transforme vite en cauchemar pour Aurélien, 36 ans, salarié d'une collectivité territoriale.
C'était le soir, ça pouvait être le week-end, des sollicitations, un petit peu Telegram ou WhatsApp ou ce genre de choses. Enfin voilà, c'est continu. Et du coup, j'ai une espèce d'aversion maintenant pour le télétravail. Voilà, mes journées de travail ne s'arrêtaient pas.
Un temps, une charge, une intensité de travail qui explose, répondre à toute sollicitation sous peine d'être soupçonné de tirer au flanc. On est vite en dehors des clous du code du travail, dit Sophie Binet, co-secrétaire générale de l'UGICT CGT.
C'est l'employeur qui est responsable du respect de la réglementation en matière de temps de travail, qu'il doit garantir un droit à la déconnexion, qu'il doit garantir que les heures supplémentaires soient rémunérées, les temps de repos respectés, etc. Et ça, globalement, en matière de télétravail, on voit que c'est absolument pas respecté.
Sans compter le mauvais équipement aux frais du salarié et les conséquences pour la santé physique et psychique.
Plus les salariés ont eu une augmentation de leur temps ou de leur charge de travail, plus le symptôme dépressif est élevé, moins les salariés ont d'autonomie et de souplesse sur l'organisation de leur travail et de leur temps de travail, plus ils ont de symptômes dépressifs, par exemple.
Et les chiffres de l'enquête, selon les indicateurs de l'OMS, sont impressionnants. 45% des salariés en télétravail sont en alerte dépression, 20% purement et simplement en dépression.
Manuel Ruffez, service économie d'Inter, et rendez-vous sur franceinter.fr pour les résultats détaillés de cette enquête. Le télétravail en forte progression depuis un an et demi, avec pour conséquence directe des bureaux de moins en moins utilisés. Alors pourquoi ne pas les reconvertir en logements ? Il en sera question cette semaine au MIPIM, le marché international des professionnels de l'immobilier à Cannes. Longtemps embryonnaire en France, ce mouvement prend de l'ampleur, Claire Chaudière.
Une grande tour de bureaux vide, métamorphosée en imposant bâtiment redessiné avec des jardins d'hiver à chaque étage, la transformation de bureaux en logements monte enfin en puissance et attire même les talents, se réjouit Léa Mosconi, la présidente de la Maison de l'Architecture en Ile-de-France.
Des jeunes architectes et des architectes confirmés aujourd'hui s'emparent de cette commande. C'est assez excitant, c'est très peu détruit. En revanche, il y a la volonté de rendre domestique et c'est la plus grande difficulté. Comment rendre domestique quelque chose qui a été pensé pour être des bureaux? Souvent, les bureaux sont en open space, il n'y a pas le même rapport à la lumière.
Des contraintes mais aussi des atouts comme les volumes ou hauteurs sous plafond. Et c'est bien l'essor du télétravail alors que le manque de logements reste criant qui accélère la tendance, constate Christophe Canu à la tête d'une société de conseil en immobilier.
Quand on met 2 jours, 3 jours de télétravail par semaine, qui a un impact sur le nombre de mètres carrés, on a des projets sur lesquels nous travaillons de transformation de bureaux en logements dans le sud-ouest, dans le sud-est, dans l'ensemble des régions. Depuis l'année dernière, on a dû étudier entre 30 et 40 dossiers quand auparavant on était sur 3 ou 4 par an, à notre échelle. On a une tendance maintenant qui est pérenne.
Projet de transformation porté aussi par la volonté de stopper l'artificialisation des sols, mais qui reste encore parfois compliqué à mettre en route économiquement ou en raison de réticence d'élus locaux.
Il faut savoir qu'avant même la crise Covid, 4,5 millions de mètres carrés de bureaux étaient vacants, rien qu'en Ile-de-France, sur un total de 55 millions. Sur le plan sanitaire maintenant, où en est-on ? Les experts sont plutôt optimistes sur l'évolution de cette quatrième vague de Covid en France. Moins 20% de cas en une semaine. Ça se confirme, on est sur la pente descendante, même si la situation reste plus préoccupante en Outre-mer. Elle s'est malgré tout suffisamment améliorée à La Réunion pour que le déconfinement soit levé là-bas en semaine à partir d'aujourd'hui et le couvre-feu repoussé à 21h.
Il est 7h35. Qui dirige la Guinée ce matin ?
Situation très confuse à Conakry où les événements se sont précipité hier. Des officiers semblent avoir pris le pouvoir en quelques heures. Le président Alpha Condé arrêté, les frontières fermées, les préfets de région remplacés par des militaires. Un putsch annoncé à la télévision par le chef des forces spéciales. Olivier Poujade, ce coup de force a été salué par des acclamations populaires dans certains quartiers de la capitale.
Les rues de Conakry, hier en fin d'après-midi, des vidéos postées sur les réseaux témoignant du soutien d'une partie de la population aux soldats des forces spéciales. Un groupe qui, quelques heures plus tôt, après des échanges de tirs nourris, est parvenu à pénétrer dans la résidence d'Alpha Condé. Un président affalé sur son canapé face à ses assaillants qui lui demandent de confirmer qu'il n'a pas été maltraité.
Est-ce qu'on vous a touché un de vos cheveux? On vous a brutalisé?
Alpha Condé ne répondra pas aux questions et se laisse conduire auprès de l'homme à l'initiative de ce coup de force, Mamadi Doumbouya, un putschiste aux accents républicains.
Nous allons engager une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée. Les Guinéens ne doivent plus mourir pour la politique. Nous allons travailler ensemble avec tous nos partenaires, bi et multilatéraux, aussi assurer le respect des engagements vis-à-vis des organisations internationales. Le Guinéen respecte sa parole.
Doumbouya, ancien légionnaire français, a malgré tout renversé ce pouvoir qu'il fustige par la force. Un acte fermement condamné aujourd'hui par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui dit suivre de très près la situation politique en Guinée.
Un coup d'État condamné aussi par les États-Unis et la France ce matin. Paris appelle à la libération immédiate du président Alpha Condé. C'était jusque-là le dernier bastion de résistance en Afghanistan. Eh bien, les talibans affirment ce matin avoir pris le contrôle total de la vallée du Panjshir, cette vallée où tentait de s'organiser cette résistance au nouveau régime ces derniers jours, sous la houlette d'Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud. Bien, ses troupes auraient subi de lourdes pertes ce week-end. C'est un fléau qui pèse plus de 20 milliards de dollars chaque année, le trafic illégal d'espèces sauvages. Au menu du Congrès mondial pour la nature qui se poursuit à Marseille, une motion y sera présentée aujourd'hui pour obliger les États à contrôler davantage les transports d'animaux sauvages, des singes, des reptiles, des oiseaux rares. Et Célia Kiré, la France est pleinement concernée par ce trafic.
Ce trafic est même une préoccupation quotidienne pour Concha Adjero, l'une des responsables de l'Office français de la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
On avait tout un trafic lié à des lionceaux qu'on a connus en 2019 et 2020. Ces lionceaux sont liés à des filières d'élevage clandestines, donc qui sont revendus sous le manteau pour faire des photos avec des lionceaux dans les quartiers sensibles principalement. On a eu des effets de mode sur les singes magots. On a des effets de mode aussi parfois liés aux dessins animés, avec le trafic de poissons comme lié au dessin animé Nemo ou au Arayacinthe lié au dessin animé Rio. Derrière, il y a des filières qui s'organisent pour importer ces espèces-là qui sont prélevées en milieu naturel et qui rentrent sur le territoire national ou en Europe même et qui sont revendues localement sous le manteau.
Chaque semaine, au moins une tonne de viande d'animaux prêts à consommer, singes, pangolins, poissons, arrivent à Roissy. La présidente du comité français de l'Union internationale de conservation de la nature, Maud Lelièvre, défend une motion à Marseille sur le sujet.
Mieux lutter, c'est travailler en amont. Ce sont dans les aéroports de départ et les compagnies aériennes qui les transportent. On demande et on souhaite vraiment que Air France, demain, puisse contrôler les bagages au départ, parce que plus on met de barrières, moins il y aura de transport. C'est absolument nécessaire.
Le trafic d'espèces sauvages est l'une des activités criminelles les plus lucratives au monde, après notamment le trafic de drogue ou de contrefaçon.
Célia Kiré à Marseille pour France Inter. Des responsables de l'agence de santé qui descendent eux-mêmes sur la pelouse. Scène surréaliste hier soir à Sao Paulo. Le match de foot entre le Brésil et l'Argentine en qualification du mondial a été interrompu 5 minutes à peine après le coup d'envoi. Les autorités sanitaires locales ont décidé de l'arrêter car des joueurs argentins auraient violé, selon elles, les règles anti-Covid du Brésil. Au lendemain de la clôture des Jeux paralympiques de Tokyo, les champions français sont de retour à Paris cet après-midi. Cérémonie d'accueil prévue vers 17h à l'hôtel de ville. La délégation tricolore a raflé au total 54 médailles. C'est près du double de Rio il y a 5 ans. Et si certains de ces sportifs ne savent pas quoi faire de leurs médailles une fois revenus à la maison, ils pourront toujours les échanger sur Internet. La crise sanitaire a donné un coup d'accélérateur aux dons entre particuliers. Parmi les applications phares, Give, qui organise le don en ligne d'objets, mais aussi, plus surprenant, de denrées alimentaires. Elle vient de franchir cette application la barre des 10 millions d'opérations réalisées depuis sa création. Sandy Dauphin.
Une vieille commode, une imprimante, des compotes pour bébé. Le donneur poste une annonce pour donner son produit. La personne intéressée vient le chercher. Au début de la crise sanitaire, de nombreuses associations et recycleries ont dû rester fermées. Beaucoup de gens se sont tournés vers l'appli Give, explique le cofondateur Hakim Baka.
Les gens sont plus restés chez eux, donc on fait du tri. Donc on postait énormément de dons, on découvert l'application. Aussi depuis un an, avec notamment ce concept du monde d'après. Voilà, les gens se sont posés de nouvelles questions, de nouveaux comportements, de nouveaux usages éco-responsables se sont accélérés.
L'appli se veut solidaire, mais aussi écologique. Donner plutôt que de déposer sur le trottoir, un don en main propre, sans colis.
La très très grande majorité des objets sont récupérés dans un rayon de 1 ou 2 km autour de la personne qui donne. Donc on est vraiment sur un usage de voisinage, un usage de proximité.
L'appli revendique 3 millions d'utilisateurs avec des usages différents selon les âges.
Nos utilisateurs les plus jeunes, donc entre 18 et 25 ans, vont récupérer énormément, donner peu. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui l'utilisent comme un bon plan. Plus on va vers des âges avancés, plus finalement on a accumulé, donc plus on a des choses à donner. Voilà, notre audience la plus active, c'est plutôt les femmes entre 25 et 45, les jeunes mamans, les jeunes actives.
L'appli se finance grâce aux pubs, mais aussi à un système d'abonnement non obligatoire. Ses fondateurs visent la rentabilité d'ici la fin de l'année.
Sandy Dauphin, puis si vous nous écoutez en Bretagne, vous avez peut-être été réveillé au beau milieu de la nuit par un intense flash lumineux dans le ciel. Dans le Finistère ou le Morbihan, les témoignages se sont multipliés, évoquant cette lumière forte, une grosse explosion aussi vers 23h50. Alors rassurez-vous, pas d'invasion extraterrestre chez les Bretons, l'hypothèse d'une météorite est avancé pour expliquer ce bien curieux phénomène nocturne.
Alexis Morel, merci. L'édito politique à suivre.
Alors, je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid.
Bah, ça va, t'es vacciné comme moi. Tu me diras, comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui?
Moi, j'avoue, j'hésite encore. Franchement, je préfère attendre.
Mais t'es sérieux? T'attends quoi? D'être hospitalisé?
Attends, la question, c'est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. C'est important aussi, les autres.
Ok, mais entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'il protège vraiment ce vaccin?
On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés, tous protégés. Plus d'informations sur les lieux de vaccination sur santé.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
France Inter, 7h42. L'édito politique, Thomas Legrand, retour sur le débat de la primaire des écologistes, c'était hier sur France Inter.
Et tiens, les écologistes ont été sages, la foire d'empoigne que l'on pouvait suspecter, que certains redoutaient ou espéraient, n'a pas eu lieu, mis à part la première réponse de Sandrine Rousseau, sans doute gage plutôt déplacé à ses soutiens féministes, je suis entré en campagne pour répondre à une humiliation parce que Gérald Darmanin a été nommé ministre, en dehors de l'étrange Jean-Marc Governatori qui se présente comme le champion de France des élus locaux, se vante d'avoir écrit 14 livres. En dehors de ces petites bizarreries sans lesquelles un événement écologiste n'en serait pas, nous avons assisté à un échange clair et respectueux. Les connaisseurs du monde vert peuvent distinguer les nuances, mais Piolle, Éric Piolle, Delphine Bateau, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau défendaient peu ou prou la ligne du parti. Delphine Bateau, qui n'est pas membre d'Europe Écologie des Verts, se différencie quand même en assumant de défendre la décroissance, mais sa définition du mot que ne veut pas utiliser le parti écologiste car porteur de l'idée fausse d'un appauvrissement généralisé, sa définition, en réalité, ne s'éloigne pas tant que ça de ce que devrait être la croissance selon les autres concurrents.
Alors, sur quoi Thomas portera le choix s'il n'y a pas de réelle divergence sur les lignes?
Il y a deux sortes de primaires. D'abord, celle où il s'agit de sélectionner aussi une ligne politique. C'était, par exemple, le cas entre Alain Juppé et François Fillon, entre Manuel Valls et Benoît Hamon en 2017. Le travers vert, c'était lors des dernières primaires, d'écarter le candidat le plus populaire accusé d'avoir acquis sa popularité en diluant forcément son écologisme par opportunisme. On pouvait imaginer que cette primaire allait répéter ce défaut sectaire. Ce ne fut pas le cas, du moins pendant le débat d'hier. Yannick Jadot est le seul qui, dans l'état des forces actuelles de la gauche, peut aussi, aujourd'hui en tout cas, rivaliser avec Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo, certes à un étiage assez bas. Il est réputé plus centriste, ses positions très fermes sur la laïcité, son discours bienveillant ou confiant envers le monde de l'entreprise pouvaient le rendre suspect de déviance il y a quelques années. C'est lui qui faisait ce reproche à Cécile Duflot ou à Nicolas Hulot. Mais la teneur du débat n'a pas montré d'animosité contre le favori. La logique voudrait donc que cette primaire ne soit pas un choix de ligne, mais une primaire stratégique destinée à désigner celui qui a une toute petite chance de gagner la présidentielle. Logique qui devrait favoriser Yannick Jadot, mais la logique, il y aurait aujourd'hui 40 000 inscrits pour la primaire. Personne ne sait qui sont ces électeurs, quelle sociologie, quelle appartenance politique. Une primaire entrouverte comme celle-ci peut aussi être l'objet d'intrusions tactiques de la part d'autres forces politiques. L'incertitude est donc de mise, l'inconnu totale du corps électoral m'oblige à reconnaître que la brillante analyse dont je viens de vous gratifier peut s'avirer un tantinet foireuse.
Sagesse des limites, merci Thomas Legrand.
L'édito éco avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
L'édito éco, Dominique. Ce matin, vous nous dites, Dominique, qu'Emmanuel Macron pense encore à la réforme des retraites.
Oui, c'est une information de ma consoeur Cécile Cornudet, l'éditorialiste politique des Échos, que deux sources m'ont confirmé.